Alors, on va aller dans, continuer notre étude, Genèse 11, verset 10 à 32. Alors, le titre que j'ai donné au sermon ce matin, c'est le plan divin du salut développé. Alors, on va voir qu'il est développé par prophétisation. À la quelque part, dans le texte, à partir du début de la Genèse, à venir jusqu'à la fin du chapitre 11, il y a différentes étapes que le Seigneur utilise pour nous montrer que la promesse qu'il a faite à partir du moment de la chute est en train de se réaliser par différentes étapes. Alors, le chapitre, le passage qu'on est en train d'étudier, c'est vraiment un trait d'union entre deux parties de la Genèse. Prenez n'importe quel livre de la Genèse qui ont des commentaires, des gens qui ont étudié la Genèse sérieusement. Et il y a toujours la division du chapitre 1 à 11, c'est l'histoire primitive. Autrement dit, l'histoire du début de la création, des premiers hommes, les événements qui se sont passés. Et à partir du chapitre 12, aller jusqu'au chapitre 50, on a une autre histoire qui s'appelle l'histoire patriarcale. Autrement dit, à partir de la semaine prochaine, on va voir comment Dieu a amené les patriarches et comment la promesse qui avait été faite dans Genèse 3:15 s'est accomplie à travers Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, qui termine le premier livre de la Genèse. Alors, c'est important de l'avoir la division parce que 1 à 11, c'est l'histoire primitive des hommes et 12 à 50, c'est l'histoire patriarcale. Alors, le verset 10 à 32, c'est comme un trait d'union. Et comme le Seigneur veut nous faire voir la transition qu'il va y avoir de l'histoire générale des hommes, chapitre 1 à 11, vers le développement de ce qui s'en vient, la naissance du pays, la naissance de la nation d'Israël, et qui va se réaliser à travers Abraham, Isaac, Jacob, et tout cela. Et ça, c'est important de voir là, que tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure actuelle, quand on dit dans les Écritures que tout nous parle de Christ, à quelque part, mais quand on lit la Genèse de façon attentive, on est en train de voir que le Seigneur accomplit toujours quelque chose. Ça va toujours vers une direction. Si on perçoit le fil conducteur de tout ce passage-là, et du livre de la Genèse, et de la suite, alors on apprécie beaucoup plus les Écritures. J'avoue qu'un passage comme celui de ce matin où on a une énumération de noms avec des il y a vécu tant d'années, on est porté à passer assez rapidement là-dessus. Pourtant, quand on s'arrête à méditer sur ces choses-là, il y a beaucoup d'enseignements qui nous est donné dans ce passage-là. Moi, je me sers d'un commentaire en français, je vous le recommande en passant. C'est le pasteur Philip Evson. C'est publié dans Europresse. C'est un commentaire sur la Genèse en français, très bien fait. Et je m'en sers souvent. Alors, il fait l'observation suivante sur le passage qu'on est en train d'étudier. Il dit, « Il est impossible de comprendre la vocation d'Abraham, l'élection d'Israël pour être la lumière des nations et la venue de Jésus si nous ne mesurons pas ces premiers chapitres, alors juste avant là. Autrement dit, les 11 premiers chapitres sont importants pour comprendre toutes ces choses-là. L'appel d'Abraham, la naissance de la nation d'Israël et la venue de Jésus, mais beaucoup plus tard. Alors, Dieu révèle progressivement des faits sur le Christ et quand il va venir. Et je continue. Il dit, « Ils enseignent que Dieu est souverain, le commencement de toute chose et que l'être humain est créé à son image. » Quand on parle de Genèse 1, toutes ces choses-là sont mentionnées. Ils expliquent pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui. Autrement dit, on comprend pourquoi les hommes sont pécheurs, parce que les Écritures nous racontent qu'il y a eu une chute de nos premiers parents. C'est un pécheur, l'homme aujourd'hui, l'homme moderne, en révolte contre Dieu, à la suite de la rébellion initiale dans le jardin de Dieu. Le triste état du monde, livré à sa propre ingéniosité, aboutit à la crise du déluge. Voyons, on voit tout le développement, crise du déluge. Mais Dieu intervint dans sa grâce pour sauver Noé et sa famille. Alors, les êtres humains t'ont rendu pourri à l'os, comme on dit, mais Dieu prend Noé, sa femme, ses trois fils et leurs épouses, et il les fait embarquer dans l'arche. Et on voit-tu le fil conducteur de Christ là-dedans? parce qu'il sauvait des personnes qui plus tard deviendraient, les descendants de ces personnes-là deviendraient des outils que Dieu se servirait, des outils humains que Dieu se servirait pour amener son salut. Alors, après ça, ça dit, « Puis la colère divine frappe de nouveau l'humanité pécheresse à la tour de Babel. » Dieu avait dit quoi? Répondez-vous sur toute la surface de la terre. Les hommes ont dit quoi? Non, on ne se répand pas, on bâtit. Alors, il s'ensuit, bien entendu, à cause du jugement de Dieu, confusion du langage, division, dispersion des hommes sur la face de la terre et formation de tribus et de nations avec leur propre langue et culture. Alors, bien entendu, un ennemi a provoqué ce chaos, mais l'être humain est également responsable de ses actions. La Genèse ne fournit que des indices très vagues quant à l'identité de cet ennemi. On sait que c'est Satan. La tentation vient de l'extérieur du jardin, d'un serpent, un animal des champs, qui utilise la voix et le langage humain. À ce moment, paraît aussi la première lueur d'espoir de l'Évangile. Dieu déclare la guerre à ce serpent et promet de lui écraser la tête pour la postérité de la femme. Tous les poteaux indicateurs placés au début de chaque nouvelle section de la Genèse orientent le regard vers l'accomplissement de la victoire divine par cette postérité qui est Christ. Quand on voit ça, Christ est partout, là, dans le livre de la Genèse, dans les 11 premiers chapitres. Et la semaine prochaine, ben là, on va rentrer dans la vie d'Abraham. Et on sait qu'Abraham est considéré comme le père des croyants. Et à quelque part, tout ça va se réaliser. On sait que Jésus est un juif. Mais les détails que le Seigneur va donner sur le Messie, ça va être révélé, mais progressivement. On en apprend un petit peu. Dans les chapitres, on apprend dans les livres, on apprend des choses différentes, jusqu'à ce qu'on sache, bon, premièrement, qu'il est un juif, deuxièmement, qu'il va venir à Bethléem, et il y a des listes de personnes qui ont étudié ce sujet-là, du développement de la venue de Christ dans les Écritures, il y en a des centaines de références. Et quand on prend la peine de voir ça, quand on voit le fil conducteur, là, ça devient de beaucoup plus intéressant, les Écritures. Alors, quand on regarde... Quand on parle tantôt, le premier point, développé par prophétisation, il faut regarder les principaux événements qui se sont passés depuis qu'on a commencé à étudier la Genèse. La première, c'était la promesse de Dieu face à l'ennemi, au serpent, dans Genèse 3:15. « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. » Et toi, tu la blesseras au talon. C'est les théologiens appellent ça le protévangile. C'est la première mention de l'évangile en capsule très résumée dans Genèse 3:15. Mais s'il l'a promis, à quelque part, il faut voir du développement de l'idée que le Seigneur donne. La deuxième chose, c'est qu'il y avait, dans Genèse 4, Dieu avait promis aussi de maintenir un reste fidèle parmi tous les hommes sur la terre. Et on sait qu'il a utilisé un personnage, Seth, Genèse 4, versets 25-26. Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et il l'appela Seth, qui veut dire remplaçant. Car Dieu, dit-elle, m'a donné un autre fils au lieu d'Abel que Caïn a tué. Et un fils naquit aussi à Seth et il l'appela Enoch. Alors, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et vous, le Seigneur, ça sert toujours d'être humain pour garder son nom, garder son adoration sur la terre. Après ça, il y a d'autres choses que le Seigneur nous montre, qu'il se sert d'hommes pour montrer qu'il y en a qui ont suivi ce que le Seigneur voulait. Marcher avec Dieu, on l'a vu dans Genèse 5, verset 22. Et Enoch marcha avec Dieu. Après qu'il eut engendré Methuselah, 300 ans, et il engendrait des fils et des filles. Et c'est là qu'on apprend, que dans le verset 27, que Methuselah a vécu jusqu'à 969 ans. Celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre, 969 ans. Quand on regarde 969 ans, Adam 930 ans, et là, quand on regarde les versets qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte? L'âge diminue continuellement. Tout à l'heure, je vais vous donner tous les noms avec leur âge. On voit que ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à ce que le Seigneur dise dans les psaumes que l'âge, c'est 70 ans. Et il dit, oui, les plus vigoureux vont vivre un peu plus longtemps, mais ce n'est que peine et misère. Autrement, il est en train de te dire que... Puis, comment ça sentir la vérité de ça? Il y avait aussi la naissance de Noé. Donc, la naissance, la marche avec Dieu d'Enoch et de Methuselah. La naissance de Noé, dans Genèse 5, versets 28 et 29, 29, il dit, il l'appela Noé, qui veut dire repos. En disant, celui-ci nous consolera de notre œuvre et de la peine qu'impose à nos mains la terre que l'Éternel a maudite. Autrement dit, quand on a étudié ce chapitre-là, on s'est rendu compte que, fort probablement, que les gens de cette époque-là pensaient que Noé, à cause de son nom, veut dire repos, pensaient qu'il était déjà le Messie. Alors, on voit que les hommes, ils ont voulu, mais des fois, ils n'ont pas compris que c'était beaucoup plus tard. Mais on voit que l'espérance est toujours là. Alors, la miséricorde que Dieu a faite à Noé et sa famille lors de l'envoi du déluge, Genèse 6, on voit la progression. Ça dit dans le verset 8 de Genèse 6, « Mais Dieu trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Et dans le verset 9, ça dit, « Noé marcha avec Dieu. » Alors, toute l'arche, on sait que c'est symbolique de Christ, comme nous, on est en Christ, et c'est à cause qu'on est en Christ qu'on peut recevoir le salut. Après ça, il y avait eu l'alliance de l'arc-en-ciel. Il faut voir le développement. Hein? C'est, plus on le voit, plus c'est beau. Genèse 9, quand le Seigneur a dit qu'il établissait son alliance et il lui avait dit que nulle chair ne sera plus maintenant exterminée par les eaux et que, autrement dit, c'est comme le Seigneur accordait le temps nécessaire pour l'arrivée. C'est comme il a dit, je ne détruirai plus la terre, mais... Dans le fond, l'idée, c'est vraiment pour laisser le temps au Messie d'arriver. C'est comme la promesse que le temps nécessaire à l'arrivée du Messie serait accordé à cause de l'arc-en-ciel, à cause de ce que le Seigneur avait dit. Maintenant, on se souvient, quand on a étudié le passage des prophéties sur les fils de Noé, quand Noé il a eu l'ivresse, Dieu avait promis à certains de ses fils qu'il y aurait des bénédictions et à d'autres de ses fils que ça ne marchera pas bien dans leur vie. Et le personnage que Dieu a dit, dans le verset 26, il dit, « Puis il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. » Et le mot « Sem » vient sémite, quand on dit antisémite, c'est t'es anti-juif. Alors, les Juifs viennent de Sem, et ça vient de ce nom-là. Maintenant, on a vu aussi Babel, la tour de Babel, que le Seigneur a jugée et qu'il a forcé les hommes à se distribuer sur la terre. Mais c'est un jugement qui a été miséricordieux. Parce que désobéir au Seigneur, le Seigneur aurait pu leur donner quelque chose de bien plus sévère que ça. Il a dit, vous ne voulez pas, mais vous allez vous répandre pareil. Et il a pris le moyen pour qu'ils se répandent. Mais il y avait quand même de la miséricorde à l'intérieur de tout cela. Et dans le chapitre 10, verset 25, on apprend la prise de position de Péleg pour Dieu. Alors, on voit qu'à l'intérieur du développement de la Genèse, Dieu a toujours des personnages pour défendre. Alors, dans Genèse 10, 25, « Et à Héber, il naquit deux fils. » Le nom de l'un est Péleg, qui veut dire partage, car en son temps, la terre fut partagée. Le nom de son frère fut Jotan. La terre fut partagée. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il y a une partie de la population des hommes qui ont voulu servir Dieu. La terre fut partagée. Et quand on parle de Héber, le mot hébreu vient de là. Alors pourquoi la nation hébreu a porté le nom hébreu? Ça vient de Héber. Alors ça, c'est. Et on voit que dans le chapitre 11, versets 10 à 26, que les descendants de Sem vont être ceux qui vont recevoir la bénédiction. Le Christ, la nation Israël va venir par eux autres, le Christ va venir par leurs descendants. Et on apprend quelque chose d'important aussi dans les derniers versets du chapitre 11, la préparation de la nation par laquelle le Seigneur va envoyer son Messie. Autrement dit, il a pris un homme qui s'appelait Térakh. Lui, il a eu des fils. Et Abraham était un. Puis on se souvient que ceux qui ont lu, sûrement, vous avez sûrement lu le chapitre 12, où le Seigneur dit à Abraham, sors du pays de la Chaldée, qui était un pays d'idolâtrie. Le Seigneur est en train de former la future nation qui va devenir le conservateur, si vous voulez, de l'adoration divine. Alors, il va le faire par les Juifs, il va leur confier les oracles de Dieu. Autrement dit, la Bible a été conservée au cours de toutes ces années-là, par les Juifs. Deuxième point, on se souvient que le nom de Sem, bien sûr, quand on étudie comme ça les Écritures, il y a tellement d'informations qui nous sont données, c'est sûr qu'on oublie, hein. Mais des fois, si on ne les oubliait pas, on serait émerveillé. Parce que le nom de Sem veut dire le nom qui indiquait que Dieu va préserver l'adoration, son adoration va se perpétuer dans le temps. Alors, le nom de Sem est à l'origine des termes sémitique et antisémitisme. Sem, alors quelque part, le Seigneur s'est servi de ce personnage-là pour amener la création de l'État d'Israël ou de la nation juive. Alors, Dieu va se servir d'une nation pour préserver son nom et son culte. Et cette nation-là, c'est les Juifs. Parce que l'Ancien Testament, toute c'est l'histoire du peuple juif. Dieu a pris un peuple et il a dit, ça va être par votre nation que le Seigneur va emmener Jésus-Christ. Et c'est par votre nation qu'on va conserver l'adoration au vrai Dieu et qu'on va conserver aussi les Écritures. Dans ce temps-là, les Écritures se développaient et c'est par le peuple juif que le Seigneur s'est servi de ça. Dans Marc 15, au verset 2, il est mentionné que Jésus, le Messie, descendrait des Juifs et serait leur roi. Et Pilate lui demanda, il demande ça à Jésus, Pilate lui demanda, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Il était le roi des Juifs. Maintenant, le Seigneur voulait aussi que la préservation du fil historique messianique. Parce que ça n'a pas été évident tout de suite que quand Dieu dit qu'il enverrait quelqu'un, un Messie, pour les débarrasser de leurs péchés, il ne comprenait pas nécessairement que c'était Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité, qui viendrait s'incarner dans une chair d'homme. Ça a pris un bout de temps avant qu'il comprenne ça, là. Ça a pris un bout de temps. Alors, quand on lit dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, et ça c'est un beau verset, et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu, le Fils, est venu sur la terre et il s'est manifesté dans une chair d'homme. Tous les gens qui l'ont vu, même les apôtres qui ont vécu pendant 3 ans avec lui, ça lui a pris un temps fou avant de comprendre que la personne qui vivait, que Jésus était à la fois homme et Dieu. Homme dans son apparence extérieure, il avait l'air comme nous autres, là. Mais il était aussi Dieu. Pourquoi Dieu? Parce qu'il n'a pas été, il n'a pas, il n'est pas devenu, et il n'est pas venu au monde la manière normale des hommes. Nous, on vient tous de l'union d'un homme, d'une femme. Que donnez-nous? Pas Jésus. La femme, oui, mais ça dit dans les Écritures que c'est le Saint-Esprit qui s'est uni à une femme, à un ovule féminin, pour former le corps de Jésus. Il y avait quelque chose de particulier, parce que s'il avait été formé de l'union d'un homme et d'une femme, il serait venu au monde pécheur. Et il fallait qu'il ne soit pas pécheur. Alors, oui, il y a eu une chair d'homme, l'ovule féminin, mais était fécondé par le Saint-Esprit. À quelque part, aujourd'hui, quand vous dites ça, dans beaucoup d'églises, vous faites rire de vous. Le monde religieux, tu sais, des fois, ils en font des jokes. Voyons donc, Saint-Esprit, tu sais, veux dire, tout le monde. Pourtant, si on croit, c'est ce que les Écritures nous disent, alors, quelque part. Alors, quand on dit 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand, Dieu a été manifesté. Manifesté, ça veut dire rendre visible, rendre quand les apôtres ont vu Jésus se lever sur le lac alors qu'il y avait une tempête, puis il dit à la tempête, calme-toi. Y a-t-il un homme capable de faire ça? Ils ont vu la puissance divine se manifester, être visible aux yeux des hommes de multiples façons. Quelqu'un qui était mort, il le ressuscite. Quelqu'un qui était aveugle, il lui rendait la vue. Quelqu'un qui était sourd, il lui rendait l'audition. Et bien d'autres choses encore. Ils ont vu que cet homme-là n'était pas un homme normal. Il y avait des choses qui se passaient avec lui qu'aucun homme n'était capable de faire. Alors, ils ont commencé à comprendre, mais ça a été tellement long. Ils ont commencé à comprendre juste après la résurrection. Quand Christ s'est remanifesté à eux, là, quand Jésus est mort, ils l'ont enterré, ils ne comprenaient plus rien du tout. On ne comprend plus. Et ça a été après la résurrection que le Seigneur a pris les Écritures, les témoins, les disciples d'Emmaüs, il a pris les Écritures et leur a montré tout ce qui le concernait dans chacun des livres de la Bible. Ça devait être une belle marche à prendre, ça. Alors, Galates 3.16, on l'a mentionné souvent, mais il faut le mentionner parce que Genèse 3.15 dit « Et à ta postérité ». Autrement dit, Dieu, par le Messie, va vaincre Satan, mais par le moyen de... Alors, les promesses ont été faites à Abraham et à ta postérité. Et verset Galates 3.16 est extrêmement important si on veut bien saisir qu'est-ce que Genèse 3.15 est en train de dire. Ça dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à ses postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule, « et à ta postérité qui est Christ ». Là, on vient de saisir que Genèse 3.15 parle de la venue future de Christ. Et il pouvait vaincre Satan, mais par Christ. Très important. Quand on regarde la préservation du temps, alors on parlait du passage, je l'ai, psaume 90, verset 10, il dit, « Les jours de nos années reviennent à 70 ans. » Je suis rendu là. Je m'en vais sur 71e, donc je suis rendu là. « Et pour les plus vigoureux, » donc il y en a ici qui sont vigoureux, ils sont rendus plus que 70 ans, « à 80 ans. » Plus vigoureux, 80 ans, il y en a qui dépassent un peu, mais en général. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt et nous nous envolons. Tout à l'heure, je vous ai parlé que je vous mentionnerai les noms. Quand on lit le chapitre rapidement, on ne voit pas nécessairement ces choses-là, qu'il y a une diminution constante de l'âge des patriarches. Je vais juste vous les nommer et je me suis fait un petit tableau. Du tableau, vous avez les noms et les âges. Alors, je vais vous nommer. Sem, selon les Écritures, 600 ans. Arpachshad, 438. Shélakh, 433. Héber, 464. Péleg, 239. Réu, 239. Sérug, 230. Nakhor, là, on commence à se rapprocher de la naissance du peuple juif. Nakhor, 148 ans. Taré, 205 ans. Et là, quand on regarde l'âge des autres patriarches, Abraham, 175 ans. Isaac, 180. Jacob, 147. Joseph, 110. Moïse, 120. On a commencé à 969 ans. Là, on est rendu dans 100 ans. Mais ça va diminuer encore parce que le psaume nous dit qu'éventuellement, 70, c'est à peu près l'âge que... On devrait se considérer comme la fin de vie. Alors, Dieu nous dit que dans Josué 24, versets 2 et 3, « Et Josué dit à tout le peuple, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Écoutez bien les mots. « Vos pères, Taré, père d'Abraham et père de Nakhor, habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. » Josué est en train de nous faire un rappel que le père d'Abraham et Abraham lui-même étaient dans un pays dominé par l'idolâtrie. Parce que c'est ça qu'il dit. Et ils habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. Mais ici, c'est le Seigneur qui parle. Mais il dit, j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je le fis aller par tout le pays de Canaan, je vais multiplier sa postérité, je vais lui donner Isaac. Alors, le Seigneur est en train de montrer, ici, on voit que Josué est en train de rappeler qu'il était au courant que le peuple était dans l'idolâtrie et que c'est Dieu qui a appelé Abraham à sortir de là, à former la nation juive qu'il a tellement utilisée ensuite pour soit garder son adoration, soit garder les Écritures et amener éventuellement la personne de Christ. Quand vous lisez les généalogies du Nouveau Testament, Père d'Abraham, Père de... Et là, vous vous rendez juste... Dans certaines, vous vous rendez jusqu'à Adam, dans d'autres versions, vous vous rendez jusqu'à... C'est très intéressant de voir tout cela. Romains 3:2, pour vous dire que, quand je vous disais tantôt que Dieu voulait utiliser le peuple juif pour la transmission des Écritures au cours des années. Romains 3:2, il est en train de nous dire que la vérité biblique sera conservée par le peuple juif. Autrement dit, le Seigneur s'est gardé une nation et il dit que c'est par cette nation-là que va se transmettre des choses extrêmement importantes. Romains 3:2, il dit, quelle est donc la prérogative du juif? Autrement dit, c'est quoi l'avantage d'être un juif? Il dit, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Elle est grande en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Le Seigneur a donné au peuple juif les Écritures pour qu'il les conserve jusqu'à nous. Le Seigneur est sage dans tout ce qu'il fait. Alors là, on est en train d'assister. Quand on parlait tantôt que le passage qu'on a lu aujourd'hui est un trait d'union. Il veut qu'on sorte de l'histoire générale des hommes pour entrer tranquillement dans l'histoire des patriarches, donc des personnes qui ont été utilisées par Dieu pour... quand on dit tantôt les promesses faites à Abraham, on est à veille de rentrer dans ce chapitre-là. C'est très intéressant. C'est même des clés de compréhension des Écritures. Dieu a fait des promesses à Abraham et à sa postérité, et la postérité, c'est Christ. Les promesses ont été faites pour Christ. Alors, Taré ou Térak, c'est le père d'Abraham. Et ça a été le chef à travers lequel va se réaliser les promesses de Dieu, donc la sortie de l'idolâtrie. Le peuple que Dieu voulait utiliser était dans l'idolâtrie jusqu'aux oreilles. Et c'est Dieu, par grâce, qui a parlé à Abraham et à son père de sortir de là pour éventuellement former la nation juive. Très important. Juste se souvenir des personnages clés des Écritures, quand on parle de l'histoire des patriarches. Abraham, avant qu'il s'appelle Abraham, il s'appelait comme Abraham, avant il s'appelait Abram. Très important de regarder qu'est-ce que les noms signifient. Abraham, ça veut dire « père élevé ». Autrement dit, le Seigneur a pris un personnage et l'a hautement élevé au-dessus des autres hommes. Mais quand son nom a été changé, c'était pas juste « père élevé », c'était « père d'une multitude ». Alors, Abraham est devenu le père des croyants, non pas seulement des Juifs. Autrement dit, Dieu a étendu son salut à l'ensemble des nations. Et là, on a d'autres personnages qui nous sont introduits dans ce chapitre-là qu'on est en train de regarder. Lot, on va voir que c'est un personnage important. Saraï. Et ici, on ne porte pas attention à ça, mais pourtant on devrait. Saraï est devenue Sarah, comme on sait. Hein? Et c'était l'épouse d'Abraham. Elle était 10 ans plus jeune que lui. Elle était stérile. Alors là, vous regardez un homme, Dieu fait des promesses, il dit, le Messie va venir par ta descendance. Et là, le gars, il est marié avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Oh, problème. Tu me promets que le Messie va venir par moi, mais ma femme... Mais c'est là qu'on voit comment Dieu utilise des choses qui, à notre point de vue, une femme stérile, là, elle était stérile, elle n'avait rien à faire. Mais le Seigneur est capable de travailler sur le corps d'une femme pour la rendre, pour qu'elle ait un enfant. On sait qu'elle a eu des problèmes avec ça, Sarah. Au début, elle ne croyait pas. Il dit, tu vas l'année prochaine, elle se dit, tu vas être enceinte. Là, elle était dans le temple, elle se payait à la traite. Voyons donc. Fait que le Seigneur y a changé et elle a pu avoir. Donc, la promesse que Dieu avait faite, elle rencontre des obstacles tout le long du développement des Écritures dans l'Ancien Testament. La quantité d'obstacles que le malin ou que l'homme a cherché à mettre à travers le chemin pour que l'apparition du Messie, c'est énorme. Mais Dieu a toujours vaincu, même si c'était des obstacles qui paraissaient insolubles, insurmontables. Une femme qui n'a pas d'enfant, puis tu es en train de dire à un couple, c'est par toi que tu vas avoir une descendance et la descendance de Christ va passer par toi. Là, toi, tu es là, tu es marié, puis ta femme est... à quelque part, là, ça devait brasser dans sa tête. Là, tu dis, quelque part, ça ne marche pas ton affaire, là. Alors, bien entendu, les intentions, Dieu permettait que Abraham sorte du pays des Chaldéens pour aller à Canaan. Alors, tout laisse croire que Térakh est sorti avec Abraham du pays des Chaldéens, mais lui, il ne s'est pas rendu jusqu'au bout parce que le texte nous dit qu'il est allé jusqu'à Charan. À Charan, il a arrêté. Donc, il ne s'est pas rendu jusqu'à Canaan. Mais à quelque part, le fils, celui que Dieu avait appelé Abraham, lui, il s'est rendu jusqu'au bout. Si on se donnerait la peine d'étudier ces passages-là avec plus d'attention, en regardant, il y a toutes sortes de choses d'enseignement. Souvent, les noms veulent dire des choses aussi. On ne se donne pas la peine, on est paresseux un petit peu. Mais quand on prend la peine de plonger là-dedans, d'aller voir les significations des noms, parfois on est... D'aller voir quand on va arriver dans les fils. Moi, là, la première fois que j'ai fait ça, là, cette étude-là, on avait regardé les 12 enfants de Jacob, les tribus d'Israël. Les noms. Premier jour, tu regardes ça, puis tu ne vois pas grand-chose là-dedans. Mais quand tu prends le nom, tu regardes la signification, puis tu lis de haut en bas, dans le sens de le premier qui a été mentionné, le deuxième qui a été mentionné, jusqu'en bas, puis tu regardes les noms, puis tu les lis, tu as l'histoire du salut. Quand tu l'as jamais vu, là, je ne sais pas. Mais quand quelqu'un te montre ça, il dit, regarde, tel nom, ça veut dire telle chose. Tel nom, ça veut dire telle chose. Là, tu les mets un en arrière de l'autre, puis tu les lis de haut en bas. L'histoire du salut, dans les noms des fils d'Israël, des tribus d'Israël. Moi, quand je découvre des choses comme ça, là, c'est là qu'on voit que les Écritures, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose de riche, c'est quelque chose... Et plus on étudie les Écritures, bien entendu, plus on s'intéresse, plus on les trouve intéressantes et plus on est émerveillé devant toutes sortes de choses. Quand je vous ai parlé du Mont Ararat, quand il est arrivé sur le Mont Ararat, c'est comme... On lit des choses et des dates qui correspondent à des choses du salut. Plus on découvre ces choses-là, sont dans les Écritures, mais ça prend de l'étude pour les découvrir. Et souvent, moi, ce que j'ai découvert, c'est pas moi souvent qu'ils ont fait les découvertes. J'ai lu des personnes beaucoup plus savantes comme moi. Puis là, tu dis « wow ». Les Écritures sont pleines de choses comme ça où on fait des « wow, wow, wow ». C'est riche, les Écritures. Alors, on voit que depuis le début de Genèse, jusqu'à la fin du chapitre 11, c'est l'histoire des hommes en général. Et le Seigneur est en train de faire un trait d'union pour nous amener au début de l'histoire des patriarches. Et à partir de la semaine prochaine, on va être dans Genèse 12 et on va parler d'Abraham. Et Abraham est un personnage clé des Écritures. On le mentionne partout dans les Écritures, on le mentionne comme père des croyants. Quelqu'un qui fera une étude approfondie d'Abraham, il y en a pour un bout de temps, là, je vous le dis. Là. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir d'un texte comme celui d'aujourd'hui, qui à première vue nous paraît un petit peu aride, parce que c'est juste des noms, c'est juste des années, il a vécu à telle année, il est mort. Mais il y a des choses que le Seigneur est en train de préparer le terrain. Première application, je dirais, voyons la main souveraine de Dieu, sa fidélité et sa puissance à accomplir ses promesses et son plan de salut à travers le Messie et à travers les époques, le temps. Et plus on va avancer dans l'étude des Écritures, plus on va connaître des faits sur le Christ. Et ça va se préciser de plus en plus. Et ça, c'est quand quand on prend une étude là, où il y a 100 promesses, disons, qui parlent du Christ à travers tous les livres des Écritures. Donc, on prend Michée, de toi Bethléem, Ephrata, sortira le plus... Bon, et d'autres. Là. Et on les prend toutes et qu'on les lit à la suite. Là, on voit la main souveraine de Dieu qui dirige le cours de l'histoire pour nous amener à Jésus-Christ. Deuxième application, Reconnaissons la glorieuse grâce de Dieu se manifestant dans l'histoire des hommes et dans la venue du Messie. Malgré les misérables oppositions des méchants et la tendance des hommes à s'enraciner dans le mal sous toutes ses formes. On l'a vu depuis le début. Il y a eu le déluge, puis ça ne faisait pas bien longtemps que le déluge était passé, que les hommes étant encore embarqués avec la tour de Babel. On voit la tendance naturelle de l'homme à s'enraciner dans le mal, à s'opposer au plan de Dieu. Mais Dieu a tout vécu, a tout vaincu ces choses-là, bien entendu. Alors, reconnaissons la glorieuse grâce de Dieu. Troisièmement, prions l'Éternel de nous faire voir clairement le thème des Saintes Écritures et le fil conducteur, de l'histoire, la personne de Jésus-Christ. On dit en anglais, bien, ils disent « history ». Quand on dit l'histoire, les Anglais ont fait un jeu de mots avec ça, ils ont dit « history », l'histoire des hommes, c'est « his ». Mettez un trait d'union entre le « h-i-s » et mettez « story ». C'est son histoire, c'est l'histoire du peuple de Dieu, comment Dieu a conduit jusqu'au Messie, et après, depuis quand le Messie est venu, quand on étudie l'histoire de l'Église, c'est encore son histoire, comment le peuple de Dieu s'est développé à travers le temps, et comment Dieu a vaincu tous les obstacles que les hommes ont cherché à mettre pour fermer la porte de l'Évangile. Des fois, le mercredi, on prie pour des nations qui sont persécutées. Bien sûr, il y a des hommes qui cherchent à arrêter l'avancée du royaume de Dieu. Le Seigneur a dit que tous ses élus vont recevoir l'Évangile d'une façon ou d'une autre. Fait que, il n'y a rien pour s'opposer au Seigneur. Bien sûr, les hommes, Satan, sont assez fous pour essayer de mettre de l'opposition dans l'histoire de Dieu, mais ça n'arrivera jamais. Alors, prions le Seigneur de nous faire voir le thème des Écritures. Tout dans les Écritures, à quelque part, a une référence à Jésus-Christ. Cherchons Jésus-Christ quand on lit les Écritures, parce qu'il est partout. Sous une forme ou sous une autre. Des fois, c'est un symbole, mais c'est riche, très, très riche. Alors, remercions le Seigneur pour sa bonté, sa grâce, et demandons-lui de nous bénir, non seulement aujourd'hui, mais pour le reste de nos jours, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.